Donc le projet La recherche par l'écoute, qui est sponsorisé par le ministère de la Culture dans le cadre du programme cadre entre le CNRS et le ministère de la Culture et qui est animé par le laboratoire de recherche artistique Locus Sonus et par l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabo-musulmans, a été invité depuis bientôt maintenant un an à Pont-Riche. Par l'association Les Ouistiti Pontérico. J'enlève le de parce que
Il n'y a
ce
pas
n'est
de
pas
deux.
de ça ne relève pas de l'aristocratie. Et donc, pour comprendre un peu ce qu'est l'association Les Ouistiti Pontérico et ce qu'est Pont-Riche, on va donner la parole maintenant à Géraldine, Guy et Julie.
Alors, l'association Les Ouistiti Pontérico réunit 7 personnes autour d'un élan. Il n'y a pas de projet. Et je laisse la parole à Guy Franca, qui est psychologue, le clinicien, qui est justement fondateur. Là, tu donneras l'appellation en italien qui sera plus juste. À Julie aussi Gobi, artisane, on peut dire, de la vallée, et qui est représentée, comme je l'évoquais tout à l'heure, par Clarisse Bachelier, sonothérapeute, par Géraldine Maupoux, qui travaille et est enseignante FLE et qui œuvre beaucoup dans la reliance des personnes en terre d'asile, on peut l'évoquer comme ça, demandeurs d'asile, enfin voilà. On a Jean-Pierre Desrobert, qui est décorateur. Et Ludivine, bien sûr, ex-bergère et donc animatrice de la Confédération paysanne 06. Guy.
Eh bien, bon, première chose, merci de cette invitation à exprimer. Donc, ce qu'est Pont-Riche, ce qu'est ce lieu, alors, on partira de l'étymologie. Pontérico, c'est justement Pont-Riche. Ponté, c'est le pont, un pont. Et donc, il y a un symbolisme dans ce nom. Enfin, moi, j'ai vu tout de suite un symbolisme, le pont qui relie les personnes, le pont qui relie les gens, le pont qu'on peut faire entre justement les différentes cultures. Et riche, ben pourquoi pas, un pont riche qui amène la richesse justement des échanges. Et moi, j'ai vu tout de suite un lieu prédestiné au partage, à la communication, donc à l'échange, la reconnaissance de la différence en fait dans la bienveillance. Et aujourd'hui, dans une époque assez clivante, et ma foi, cette aspiration symbolique justement à ce pont entre les gens me paraît important à signaler, à soulever. En fait, ce qui m'a toujours animé, c'est donc la richesse, comprendre la richesse et cultiver la richesse dans la diversité humaine. Voilà, cette dimension où le différent m'apporte, le différent m'instruit sur moi-même. Et donc, à partir de là, on peut aller au-delà des conflits, au-delà de justement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, entre voilà, un peuple qui se déchire. Donc, ces cultures différentes, ces horizons différents, mais aussi la rencontre de compétences différentes. Je pense que nous nous sommes rencontrés tous les sept en ayant une vision lointaine de ce que nous voulions apporter, mais en arrivant, c'est comme une confluence en fait d'intention qui a fait que Ouistiti est né hein, dans ce lieu. Et donc, qu'est-ce que nous cultivons? Ben, je le disais, la richesse de la complexité, en fait. Pour moi, la complexité, ça a toujours été un phare en ligne de mire. Hein. Je pense à tout l'enseignement d'Edgar Morin, hein, qui parle toujours de la pensée complexe. Et cette complexité, ben, ça m'est cher en tant que psychologue, parce que j'y vois dans la culture de la complexité, justement, cette dimension qui nous permet d'aller vraiment au-delà du clivage pour arriver à une unité, en fait, de l'esprit, qui fait que ben, on s'éloigne un petit peu de la souffrance. La souffrance, pour moi, elle est justement dans le clivage et dans le non-respect de la différence. Et dans cette dimension de dualité, en fait. Alors, Pont-Ruche, si vous voulez, c'est d'abord un lieu physique qui est situé sur un plateau, dans la vallée de la Pierre. Et tout autour de nous témoigne justement de la richesse historique de ce qui s'est passé dans ce lieu. Il suffit de voir déjà l'architecture de ce lieu. Ça m'a frappé quand je suis arrivé ici. Et regarder ce qui se passe autour de nous, regarder comment l'homme, au fil des siècles, a modulé, on entend parler tout à l'heure avec Nicoletta, comment ces anciens ont modulé ces paysages pour pouvoir faire de l'agriculture vivrière. Et là, je me raccroche à ce que disait Anna tout à l'heure, l'importance du respect du lieu, l'importance du respect de l'environnement. Et elle parlait de semences vivrières et de ces anciennes semences que bon, on connaît le système aujourd'hui qui tend à marginaliser, en fait, alors que justement nous sommes dans une époque où on doit réaliser que la diversité, c'est vraiment quelque chose que nous devons non seulement respecter mais exalter, à mon avis, parce qu'on est en train vraiment de perdre à tous les niveaux, au niveau animal, au niveau végétal, toutes ces espèces. Alors, au niveau du symbolisme, encore une fois, ces montagnes qui pourraient porter à, et sans doute qui ont porté un certain isolement géographique, aujourd'hui, dans ce lieu précis d'isolement géographique où les communautés étaient quelquefois renfermées sur elles-mêmes, eh bien, pouvoir créer un lieu justement de rencontre à ce niveau où nous sommes, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un streaming mondial quand même, mais je veux dire, c'est aller vraiment à contre-courant d'une part, mais c'est peut-être être inséré justement dans cette nécessité du présent par rapport à ces communications, par rapport à ces échanges. Voilà, donc Pont-Ruche, c'est ça, c'est ce lieu de rencontre, de richesse. Alors... Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, Géraldine, moi je suis, j'anime en Italie, je suis fondateur, enfin cofondateur de la Fondation Internationale vers l'éthique, donc l'acronyme en italien c'est Fondazione Internazionale Verso l'Etica, qui a un siège à Florence et qui s'occupe, c'est pas un hasard, de développer des formations à tous les niveaux, d'entreprise, au niveau des individus, etc., pour pouvoir essayer d'amener des outils qui permettent justement d'aller au-delà du clivage et de permettre l'intégration au niveau de la relation. Que dire de plus ? Ce lieu a été, encore une fois sur un plan symbolique, ce lieu était divisé en trois parties. On avait trois unités foncières. Et j'ai eu la chance de pouvoir réunir ces unités foncières pour mettre cet espace à disposition. Et donc ce mélange entre la culture, j'allais dire, de l'esprit et la culture, parce qu'au départ, le projet de Pont-Ruche, c'était une agriculture, parce que j'ai développé aussi, comme Anna, dans la Roya, il y a une vingtaine d'années, j'étais maraîcher aussi. J'avais une exploitation agricole ici aussi, sur Pont-Ruche. Et donc l'idée, c'était vraiment d'unir les deux, la culture à la fois vivrière et la culture de l'esprit. Et je vois que c'est en train de se réaliser et c'est assez merveilleux. Voilà.
Tu peux raconter, Julie, l'élan qui t'a amené à proposer, à être l'initiatrice de ce collectif.
Oui, alors moi j'étais dans une phase de vie où je terminais mon activité agricole, j'étais apicultrice, Et je voulais donner plus de sens à ma vie. Donc j'ai aussi des enfants. On habite dans un milieu rural et isolé. Et j'avais l'envie de créer un lieu, enfin d'ouvrir un lieu en tout cas pour réunir des gens qui ont l'envie d'échanger avec, enfin dans le domaine artistique, culturel, voilà, pour créer de la richesse un peu chez nous. Et donc bah, je crois que j'ai capté le même canal que Guy et vous, et que les Ouistiti. Et voilà, en reliant les personnes et en allant parler à Guy, qui a ouvert avec un grand cœur ce lieu magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les rêves se concrétisent, se mettent dans la matière. Donc voilà, c'est d'y croire en fait, d'avoir la foi en ses rêves. Très heureuse en tout cas d'accueillir aujourd'hui le Soundcamp aussi qui nous fait voyager et toutes les personnes qui sont ici et que ça puisse continuer dans ce sens-là.
Je reviens sur une partie, si tu es d'accord, si tu es on dit une enfant du pays.
Ouais.
Et cette notion-là, tu as souvent évoqué que pour toi c'était important que les enfants aient des possibilités d'avoir des activités, notamment culturelles et autres aussi.
Ouais, et oui.
Est-ce que tu peux nous faire partager juste ton expérience à ce niveau-là, si tu es d'accord ?
Mon expérience d'enfant du pays.
Exactement.
Oui, c'est vrai qu'ici, en tout cas dans la vallée de la Roya, bien avant tout ce mouvement qu'il y a aujourd'hui, cette dynamique où des gens de divers horizons arrivent et restent, c'est quand même pas très riche au niveau culturel. On n'a pas beaucoup le choix dans les activités qu'on peut faire. Et c'est souvent très contraignant au niveau du transport. Donc si on veut aller quelque part, même le village d'après, il faut avoir une voiture, on n'a pas beaucoup de train. Donc ouais, moi j'ai eu la chance de voyager, d'aller voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Ça m'a beaucoup enrichi et ouvert l'esprit. Donc je voulais que mes enfants et les enfants de la vallée puissent avoir cette même chance en étant ici, en vivant sur le lieu, en rendant vivant la vallée, quoi. Voilà, avec toutes les belles personnes qui sont déjà présentes, donc mettre en valeur ce qui est déjà présent sur le territoire et voilà, à peu près, quoi.
Je rajoute une question et après je poserai à Guy. C'est, tu partageais une expérience par rapport aux ruches et tu avais un regard évolutif sur justement ton côté apicultrice. Et si tu peux nous le partager, cette notion d'aller vers ensuite les ruches rondes. Voilà.
Oui, alors bon, j'ai été apicultrice quelques dizaines d'années. Donc j'ai vu un peu l'évolution de l'apiculture que nous pratiquons à plus ou moins grande échelle. Hein, parce que moi, j'étais par exemple en bio, j'avais 100 ruches en sédentaire sur 3 ruchers différents. Et pour moi, c'était quand même de l'exploitation. Et il y a certains facteurs environnementaux qui font que on se retrouve face à des problèmes et finalement on en revient toujours au même point. On essaye de garder en survie, en vie des ruches en intervenant vraiment énormément, pour moi en tout cas. Et ça faisait plus sens, quoi. À un moment, je me suis dit. Là, on va dans le mur. On est en train de vivre, enfin, d'essayer de vivre du vivant au lieu de vivre avec, quoi. Et voilà, donc je cherchais, parce que j'aime bien ça aussi, je m'intéresse à plein de choses. Et j'ai vu qu'il existait des conservatoires de l'abeille avec différentes formes d'habitat pour l'abeille, des ruches rondes où elles se sentent mieux. Bon, c'est pas très porté sur la production, évidemment. Mais c'était voilà, ce lieu-là, Pont-Riche, un rucher ancien qu'on appelle un aïjou, dans lequel j'aurais souhaité mettre des ruches rondes et les laisser évoluer d'elles-mêmes. Et les observer pour voir ce qu'il advient un peu des abeilles sans qu'il y ait trop d'intervention. Bon, voilà, pour l'instant, c'est un projet qui est en stand-by, mais qui peut intéresser d'autres personnes. Voilà. C'est une part de... Oui, une part de recherche importante, je pense. Voilà. Et c'est un lien que nous avons tous, donc je pense que ça parle à tout le monde, quoi. C'est le lien aussi avec le sauvage, quoi. De laisser un peu le contrôle de côté et d'aller un peu plus vers l'inconnu et vers quelque chose de moins... diriger, voilà, de se laisser aller un peu avec le flux des choses, quoi, s'adapter.
Ce qui amène à rebondir avec les propos de Peter tout à l'heure sur justement cette notion d'avoir des espaces éphémères ouverts et de les laisser en streaming, sans enregistrement. Et ça m'amène à te poser des questions, merci, sur la relation. C'est quoi pour toi la relation, Guy?
La relation, c'est un laboratoire. C'est quelque chose de... C'est un espace. D'un espace dans lequel chacun va pouvoir s'exprimer dans une reconnaissance de l'autre. Et si on considère cet espace vraiment comme un endroit où on peut exprimer tout ce que nous sommes, bien on va au-delà des jugements, on va au-delà du pouvoir, on va au-delà de l'utilisation de l'autre. Et simplement, si j'existe, je te permets à toi d'exister. Si je n'existe pas, je vais te demander constamment de me confirmer que j'existe. Et évidemment, ça ne marche pas. Et donc, la relation, c'est vraiment cet espace magique qui s'instaure entre un individu, plusieurs individus, qui vont être dans ce flux de vie. Justement, tu parlais de ce flux et de cette absence d'intentionnalité. Hein, c'est-à-dire être vraiment dans le présent de la relation. Et ça, c'est très important, le présent de la relation. Parce que si dans la relation, je ne suis pas dans un présent, je vais inconsciemment projeter mon passé sur l'autre. Et tu vas me rappeler quelqu'un avec qui j'ai été bien, ou tu vas me rappeler quelqu'un avec qui j'ai eu un conflit. Et déjà, là, l'espace, il va être pollué par ce passé qui vient et qui envahit cet espace présent. Et donc, dans la relation... Eh bien, c'est quelque chose qui s'établit instant après instant, et donc c'est quelque chose d'éphémère, en fait. Et souvent, on va essayer de cristalliser ça. On va dire, ben, j'étais bien avec lui, alors je veux être bien avec lui encore et encore. Et donc, on va se fixer sur un moment en n'étant plus à l'écoute de l'autre, mais simplement en voulant absolument faire entrer l'autre dans cet esprit. Espace qui n'est plus dans cet instant qui déjà n'est plus. Et donc le fait d'être dans cette absence d'intentionnalité et de cette ouverture maximum, on parlait d'ouverture des micros, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, je suis à l'écoute, à ton écoute, quoi que tu dises, quoi qu'il se passe, je t'écoute. Et je vais rentrer en résonance jusqu'au moment où ce que tu vas apporter dans cet espace je vais pouvoir le reconnaître et mettre de l'amour sur tes mots, même si tes mots ne sont pas dans cette dimension d'amour. Et c'est là où je parlais ce matin avec quelqu'un, je disais, c'est la fonction de rêverie. C'est la fonction, cette fonction magique que la maman va faire avec son nouveau-né lorsque le nouveau-né est dans une relation de... Dans une situation d'angoisse, par exemple. Il va extérioriser son angoisse et la mère, dans cet amour maternel, dans cet accueil infini, cette bienveillance, va récolter cette angoisse et à travers sa sérénité, va lui restituer une sérénité et permettre à ce nouveau-né de construire des ponts neuronaux qui vont inhiber son angoisse. Et ça, c'est absolument merveilleux. Alors, on comprend que si la mère n'arrive pas à faire cette fonction, qu'est-ce qui se passe? Elle va rentrer en résonance avec sa propre angoisse, qui n'est plus dans le présent, mais qui vient de son passé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, le nouveau-né se trouve dans une situation absolument folle, où il doit gérer son angoisse, plus celle de sa mère, et là, il n'y arrive pas. Eh bien, c'est ça la relation. La relation, c'est pouvoir apporter cet élément de transformation à travers, si tu veux, cet espace. Voilà. Ce qu'on essaie de faire ici, à Holistic, quand même. Il faut le dire. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup Guy, merci Julie, merci Géraldine. On va faire une petite pause et on reprend ensuite avec une autre intervenante, absolument.